France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, je vous souhaite une belle année 2026 et c'est le grand retour ce matin de Grand Bien Vous Fasse du lundi au vendredi entre 10h et 11h avec encore plus d'interactivité. Je suis ravi de vous retrouver pour fêter les 10 ans de cette émission. Et ce matin, comment perdre du poids après 40 ans, mincir, retrouver la ligne, un poids de forme le plus naturellement possible et sans faire de régime et surtout sans injonction. C'est la gageure après un certain âge, chez les cadras, les quinquas et plus, mincir semble plus difficile qu'à la vingtaine. Alors que le poids n'est pas une question de volonté, beaucoup culpabilisent à tort de ne pas y arriver. Alors nous verrons quelles sont les raisons qui nous font grossir après 40 ans, nous verrons si ces kilos en plus sont inéluctables, quelles sont les stratégies les plus adaptées pour s'en délester, que penser des nouveaux médicaments injectables contre le surpoids comme le Wegovy ou le Mounjaro. J'attends toutes vos questions et vos témoignages au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 mais également en utilisant le bouton réagir sur l'appli Radio France. N'hésitez pas également à nous laisser des notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Nicolas Da Silva.
Bonjour Ali.
Vous êtes diététicien nutritionniste spécialisé en psychologie du comportement alimentaire à Paris et vous avez publié chez First Edition « Manger, la fin des injonctions, fin FAIM ». Bonjour Marie-Laure André, bienvenue.
Bonjour Ali, merci.
Vous êtes diététicienne nutritionniste, vous publiez chez Le Duc « Mincir et rester mince après 45 ans » et vous êtes en duplex d'ici Provence. Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali, bonne année à vous et à tous les auditrices
bonne année
auditeurs.
À tout le monde. Vous êtes endocrinologue, nutritionniste, chef de service à l'hôpital Bichat. Vous êtes également le responsable de la chaîne PUMS pour une meilleure santé. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est la chaîne PUMS, disponible sur YouTube. C'est une chaîne anti-fake news médicale.
PUM, ça veut dire pour une meilleure santé. C'est une chaîne effectivement qui est là pour fournir de l'information et des conseils pratiques fiables au plus grand nombre dans une époque où on est un petit peu pollué par une surinformation et en particulier dans le domaine de la santé.
Et c'est une chaîne publique. Vous viendrez régulièrement dans Grand Bien Vous Fasse jusqu'à la fin de la saison. Alors, petit point pédago pour commencer, professeur Ancel, la prise de poids est évidemment multifactorielle, il existe des raisons génétiques, hormonales, psychologiques, environnementales. Le principe de la prise de poids, c'est d'ingérer davantage de calories qu'on en brûle. Il s'agit là d'une règle fondamentale de thermodynamique, mais si simple que cela, est-ce que grossir correspond forcément à une suralimentation et à un déficit d'exercice physique?
Oui, il y a deux manières d'aborder le sujet. Soit on dit il y a 250 causes, et vous en avez mentionné quelques-unes, soit on revient à la base, c'est-à-dire que le gras, l'accumulation de graisse dans le corps, c'est une accumulation d'énergie. Le gras, c'est de l'énergie stockée. Et donc, pour augmenter la masse grasse, on doit forcément amener plus d'énergie que ce qu'on dépense. Sinon, on ne peut pas prendre du gras, on ne peut pas prendre du poids. Donc si vous dépensez plus que ce que vous apportez, vous allez perdre du gras, perdre du poids. Si vous apportez plus d'énergie que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids. Et la seule manière d'apporter de l'énergie au corps, c'est l'alimentation. On n'a pas des éoliennes sur la tête, on n'a pas des capteurs d'énergie solaire, donc la seule manière, c'est ça. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que pour perdre du poids, il suffit de faire attention à ce qu'on mange. Parce que ce qui fait qu'il y a un excès d'apport par rapport aux dépenses, là, il y a énormément de raisons. Et c'est pour ça que non, la prise de poids, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dû à un manque de volonté. Il y a beaucoup de facteurs et je pense qu'on va y revenir.
Nicolas Da Silva, vous buvez du petit lait? Parce que c'est pas une histoire de volonté, la prise de poids.
Alors non, c'est pas une histoire de volonté, ça me fait plaisir d'entendre...
Ou la perte de poids, c'est pas parce qu'on le veut qu'on va forcément perdre du poids.
Ah bah non, et ça me fait plaisir d'entendre M. Boris Ancel le signifier. Manger est un comportement, et donc ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'est-ce qui motive nos comportements. Bien sûr, hein, là-bas, c'est une question thermodynamique, ça a été très bien rappelé, c'est vrai. Maintenant, il va falloir comprendre pourquoi est-ce que, pour certaines personnes, il peut être plus difficile de changer certains comportements, ou qu'est-ce qui peut être des freins. Et ça va dépendre de chacun. Chacun son individualité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera jamais une histoire de volonté. Ça peut être une histoire, par exemple, de difficultés de gestion émotionnelle. Ça peut être une histoire de vie très sédentaire, en lien avec un travail qui est très prenant, etc. etc. Des raisons, il y en a plein, vous les avez très bien citées. Et ça ne sera pas en luttant contre soi et en s'accusant d'un manque de volonté qu'on arrivera à dépasser ses freins.
Professeur Ancel.
Et pour compléter encore ce qu'on a dit, qui est en face tout à fait, on entend parfois, non, l'obésité, c'est le microbiote, l'obésité, c'est l'inflammation, l'obésité, c'est l'excès de sucre. Il faut comprendre que tout cela, c'est une manière de voir une réalité, mais qui est toujours la même. On ne va pas prendre du poids parce qu'on a un mauvais microbiote si on ne mange pas plus que ce dont on a besoin. Ce n'est pas nos bactéries qui posent problème a priori. Vous comprenez ? Donc oui, il y a des facteurs liés au microbiote, liés à l'inflammation, liés à la psychologie, etc. Mais à la fin des fins, si on réduit les apports caloriques, et ce qui est très compliqué, attention, oui, on perd du poids.
Marie-Laure André.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est multifactoriel, cette prise de poids. On voit quand même qu'elle a tendance à s'accélérer autour de la quarantaine, 45 ans, 50 ans, pour les femmes, comme pour les hommes, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. À la base, il y a quand même un problème d'apport calorique versus les dépenses. Donc peut-être un manque de dépenses énergétiques et trop d'apport énergétique au quotidien qui fait qu'il y a une prise de poids progressif, mais il y a aussi effectivement le comportement alimentaire, les envies de manger qui sont aussi d'origine multifactorielle, émotionnelle, le stress, l'ennui, la fatigue, etc. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions à un moment donné et pas forcément se jeter dans le premier régime venu qui va peut-être permettre de perdre quelques kilos comme ça pendant quelques semaines, mais qui dit régime dit début et fin, et forcément il y a toujours une prise de poids, surtout si le régime était restrictif.
Et alors, professeur Ancel, d'où vient la graisse qui nous fait grossir ? Alors ce matin, on ne parle pas de prise de poids musculaire en faisant du sport ou de l'exercice physique, on parle du tissu adipeux, le tissu adipeux qui est un organe à part entière. D'où elle vient cette graisse ?
Alors effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler que c'est un organe à part entière. C'est d'une part un lieu de stockage d'énergie, ça on l'a mentionné tout à l'heure, et pour que cette graisse se développe, il faut amener de l'énergie. Mais c'est aussi un organe vivant, un organe qui fabrique des hormones, des substances chimiques qui vont avoir un effet au niveau du cerveau, au niveau du muscle, au niveau du pancréas, au niveau du foie. Et c'est pour ça que cette graisse, elle est vivante. Et on peut illustrer ça très simplement en disant que si on perd du poids, eh bien cette graisse qui est faite d'abord de cellules adipeuses, de cellules graisseuses, eh bien ces cellules vont se vider de leur graisse. Mais elles sont vivantes et elles savent dire au cerveau, attention, je me suis vidé et moi j'aime pas me vider parce que j'aime pas le vide, la nature a horreur du vide comme on dit classiquement. Et donc elles envoient des hormones qui vont nous pousser à remanger. Donc cette graisse, c'est oui, un stockage d'énergie, on l'a dit, mais c'est aussi un tissu vivant qui va nous faire réagir dès lors que cette réserve d'énergie est mise en péril.
Alors, prendre du poids au fil des années, c'est un phénomène naturel. On grossit en moyenne de 7 à 8 kilos entre l'adolescence et la cinquantaine. On prend du poids notamment à cause du ralentissement du métabolisme. Le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie dépensée au repos. Et ce métabolisme de base permet de notamment maintenir notre température corporelle, d'assurer le fonctionnement cardiovasculaire, la respiration, encore le fonctionnement cérébral. C'est bien le cas, Nicolas Da Silva, notre métabolisme de base se ralentit avec l'âge ?
Alors oui, c'est bien le cas et c'est une question qui se pose très souvent en patientèle, notamment de patients et de patientes qui veulent maigrir, qui veulent perdre du poids, alors qu'en fait physiologiquement tout va bien. Faut bien comprendre, dans le titre de l'émission qui était « Comment perdre du poids après 45 ans ?», moi je m'étais dit, une question qui pourrait être très importante, c'est comment conserver une relation saine à son poids après 45 ans ? Parce que parfois nos idéaux sociétaux autour de la minceur, autour de ce qu'on demande au corps, et notamment au corps féminin, mais pas que, ne sont pas en adéquation avec la physiologie normale. Je rappelle, la moyenne de taille de pantalon des femmes en France, c'est entre le 40 et le 44. Et donc, il faut bien faire la différence entre j'ai un souci de santé et il serait bon pour ma santé que je tende vers une perte de poids, VS, ma physiologie est parfaitement normale, en fonction, en revanche, je souffre d'insatisfaction corporelle ça me réclame de m'amaigrir, mais ça ne va pas être possible. Si tant est en plus que la pluralité des corps, ça existe. Il y a des corps qui sont faits pour être plus minces, il y a des corps qui sont faits pour être plus gros, et la physiologie, même à un IMC qu'on pourrait considérer au-dessus médicalement, ne sera pas forcément... diminuable.
L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est ça. Nous accueillons Samira. Bonjour Samira, bienvenue.
Bonjour.
Merci de nous avoir appelé sur
vos émissions.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé sur WhatsApp. Comment perdre du poids après 40 ans sans régime? Ça vous concerne, Samira?
Totalement. Je voulais d'abord vous dire bonne année. Très heureuse que votre émission ait retrouvé un format normal.
Merci beaucoup.
Ça nous manquait.
Merci.
Alors, pour ma part, j'ai 53 ans, je pense que je fais le yo-yo depuis, depuis mon adolescence, mais effectivement, passé la préménopause, qui date maintenant d'il y a un an, je trouve que la prise de poids est de plus en plus importante et plus compliquée à combattre. J'ai beau calculer mon IMC, j'ai beau calculer mon besoin énergétique, je continue de prendre du poids, donc je suis accompagnée, bien sûr. Mais je trouve ça plus difficile, passé un certain âge, de perdre et de perdre durablement. Donc le sujet de votre émission me concerne totalement.
Qu'est-ce qui est le plus difficile, Samira? C'est de faire les mêmes efforts, de suivre éventuellement un régime alimentaire et de se dire que par rapport à il y a 5 ou 10 ans, la perte de poids n'est pas la même que quand je faisais à peu près les mêmes efforts il y a quelques années?
C'est ça. Et puis je pense que la sédentarité n'aide pas, le Covid a laissé des séquelles, on bouge moins. Donc là, j'essaye de bouger plus qu'auparavant, mais je trouve que les efforts que je fais, même s'ils sont dans la durée un peu plus longs, ils ne sont pas forcément synonymes de réussite. Voilà. Donc c'est un combat quotidien, et encore plus passé 50 ans, je trouve, me concernant.
Marie-Laure André, sur le cas de Samira, la prise de poids, notamment au moment de la périménopause, de la préménopause et évidemment de la ménopause concernant les femmes, parce que l'andropause, c'est aussi une période où les hommes peuvent prendre du poids.
Et oui, effectivement, c'est une réalité chez de nombreuses femmes. Arrivées à la cinquantaine, on voit effectivement que il faut redoubler d'efforts pour retrouver une silhouette qui nous convient. Je pense qu'il faut vraiment s'armer de patience. Et j'ai entendu un mot qui m'a marqué, c'est le mot combat. Et je pense qu'il faut vraiment pas le voir de cette façon-là. C'est plus dans l'accompagnement de son corps qu'on peut y arriver. Alors ça prend pas quelques semaines, c'est plus quelques mois pour retrouver peut-être des bonnes habitudes. Effectivement, avoir une activité physique plus régulière et puis en tout cas faire de son mieux au niveau de l'alimentation pour essayer de rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer sans tout supprimer. Je pense que la notion de plaisir aussi est importante. Et peut-être plutôt que fixer un objectif poids, ce qui est bien passé 45-50 ans pour les hommes comme pour les femmes, c'est peut-être plutôt mesurer le tour de taille parce que c'est vraiment l'indicateur phare pour le risque cardiovasculaire. On sait que pour les femmes, passer 80 cm ou 88 cm de tour de taille, il y a un risque cardiovasculaire augmenté. Chez l'homme, c'est au-delà de 94 cm, voire 102. Les risques sont bien plus augmentés. Donc, vraiment pas uniquement se fixer sur les résultats de la balance, surtout qu'il y a toujours une variation quotidienne. Si on se pèse tous les jours, on verra qu'il y a toujours une variation. Ça peut démotiver. Donc, vraiment se concentrer sur les efforts du quotidien qui vont vraiment permettre d'atteindre ces objectifs sur le long terme.
On va y revenir, on va s'intéresser à cette période spécifique de la préménopause et de la ménopause. Restez avec nous, Samira, on a besoin encore de votre témoignage. N'hésitez pas, comme Samira, à nous appeler au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, à utiliser le bouton réagir sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous laisser des notes vocales. Et on écoute Diana Ross et les Supremes, You Keep Me Hanging, une chanson de 1967, 10h20 sur France Inter.
nothing I can do about it.
Diana Ross et les Supremes, You Kept Me Hanging On.
Ali Rebbein.
Comment est-ce que tu peux bouffer autant et pas prendre de bite? Tu fais vomir?
Non, je me fais larguer.
Grand bien vous fasse.
Régime super efficace, tu perds 4 kilos par mois.
Sur France Inter.
Et dans Grand bien vous fasse ce matin, comment perdre du poids après 40, 50 ans et plus avec l'endocrinologue Boris Ancel et les diététiciens nutritionnistes Nicolas Da Silva et Marie-Laure André. Alors Samira, vous nous avez appelé sur WhatsApp juste avant le disque et vous nous disiez que vous aviez du mal à perdre du poids après 50 ans. Alors professeur Boris Ancel, prend-on forcément du poids au moment de la ménopause ou de la périménopause?
D'abord, je voudrais remercier Samira de se faire l'écho de très très nombreuses femmes qui nous consultent, qui nous posent des questions à ce sujet. Alors, la science est claire là-dessus, la ménopause en elle-même n'est pas la cause de prise de poids. En revanche, on observe très clairement à partir de 40 ans, 50 ans chez la femme, une prise de poids qui s'accélère un petit peu et une difficulté à perdre du poids. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La première, c'est la réduction de la masse musculaire. Il ne faut pas oublier que la masse musculaire nous permet de dépenser de l'énergie, même quand vous ne faites rien. Quand vous dormez à lit, quand vous présentez grand bien vous fasse, j'ai du mal, hein, mais on est dans le bain, voilà. Vous dépensez des calories. Et on perd à peu près 2 à 3, entre à peu près 5% de masse maigre tous les 10 ans. Donc on a une diminution de la dépense énergétique, ce qui veut dire que pour perdre du poids, il faudrait manger encore moins que quand on était plus jeune. Deuxième élément, c'est qu'en période de pré-ménopause, souvent on ne parle pas de cette période-là, il y a un peu plus de troubles de l'humeur chez les femmes qui ont été constatés et qui font qu'on va être moins bien, on va moins bien tolérer son corps, une moins bonne image corporelle, un problème de désirabilité sociale. Et donc tout ça va faire que finalement, on va manger un petit peu plus, souvent sans même se rendre compte, et bouger un peu moins. Et puis troisièmement, Samira nous a parlé de son antériorité de régime et de yo-yo. Il faut savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, la graisse, les cellules graisseuses sont entre guillemets intelligentes. C'est-à-dire que
les adipocytes,
quand on les vide, elles veulent se re-remplir. Et en réalité, le corps se rappelle toujours du poids maximal que vous avez atteint. Donc si vous avez fait des régimes à répétition, plus vous avancez dans le temps, plus votre corps va dire « Ah, il faut que je reprenne les kilos » et donc va envoyer des signaux pour que vous mangiez un peu plus sans vous en rendre compte. Pour que vous voyez moins ce que vous mangez, parce qu'on a ce trouble de perception qui s'installe, et pour que vous bougiez un peu moins. Et tout ça explique qu'à 40, 50 ans, eh bien on a l'impression, une réalité, hein, qu'on a plus de mal à perdre du poids.
Nicolas Da Silva.
7, j'ai un chiffre à vous donner. 7, c'est le nombre de régimes que fait une femme en moyenne dans sa vie. Et quand j'entends Samira, qui se fait l'écho, comme le disait M. Boris Ancel, de nombreuses femmes, j'ai envie de, qu'on puisse faire un constat de mais combien ça m'a coûté d'années cette lutte. En fait, cette lutte perpétuelle contre mon corps, contre la nourriture, et qui ressemble beaucoup au champ lexical de ce qu'on appelle la restriction cognitive. Vous savez, la restriction cognitive, c'est le moment où on arrête d'écouter ces régulations naturelles pour s'alimenter. Ce que je rappelle, à la base, manger, c'est un acte inné qui est régulé par tout un tas de régulations sensorielles notamment. Et bien, c'est quand on remplace cette régulation naturelle par une somme de règles rigides. Ça peut être des règles d'activité physique, une catégorisation des aliments en bon-mauvais, s'interdire de manger à des moments où on a faim, etc. arrivés à la cinquantaine, on observe beaucoup en consultation, beaucoup de femmes qui ont lutté pendant des années et des années et des années contre ce corps. Et peut-être que ça peut être l'occasion de faire un petit bilan, de se dire peut-être que cette lutte, elle n'a jamais payé. En fait, ce chemin de me dire je ne suis pas bien dans ma peau, du coup je vais changer de peau, ça n'a pas marché. Selon ce même sondage IFOP de 2023, 60% des femmes n'aiment pas leur corps. Peut-être que se réconcilier avec la nourriture et son corps, ça serait une piste.
Samira, on a beaucoup parlé de vous. À vous la parole.
Je ne suis pas spécialement réconfortée par vos propos, pour le coup.
Et tiens, justement, pourquoi?
Oui.
Pourquoi vous n'êtes pas réconfortée?
Parce que je pensais qu'en me disant que je pouvais faire mes calculs et baisser un peu le nombre de calories, j'arriverais à atteindre un poids. Alors, je ne rêve pas de revenir au poids de mes 20 ans, qui de toute façon ne me convenait pas déjà à l'époque. Mais en dehors du fait que c'est effectivement mauvais pour la santé, il y a tout un tas de choses qui sont très gênantes quand on prend du poids à mon âge. C'est que tout est ciblé sur la poitrine, sur le ventre. Et c'est ce qu'on voit en premier chez quelqu'un. Donc, pour le coup, quand bien même le poids en lui-même sur la balance ne serait pas forcément l'indicateur, c'est vraiment une question de bien-être au quotidien, de se sentir un peu mieux dans ses vêtements, dans sa peau, moins lourde et moins volumineuse, on va dire.
Boris,
oui, bien préciser à Samira, on n'a absolument pas dit, enfin moi je n'ai absolument pas dit que l'excès de poids ne pose pas de problème sur le quotidien, sur la santé. Ce qu'on a dit, Samira, c'est que chercher une énième solution, quelle qu'elle soit, pour maigrir avec la restriction calorique, ça s'appelle être multirécidiviste. Je m'excuse d'utiliser ce terme un peu fort, mais parce que ça fait du mal au corps, ça fait du mal au psychisme. Donc, si on n'a pas réussi avec de la restriction, avec un régime, à perdre du poids plus de 5 ans, au moins plus de 2 ans, c'est que c'est compliqué et c'est pas sa faute. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire, au contraire, toutes les unités de prise en charge du surpoids et de l'obésité sont là pour aider et pour améliorer la santé de nos patients. Sinon, mon métier n'existerait pas et on prend en charge des patients qu'on peut aider pour leur santé, pour se sentir mieux et perdre du poids quand c'est nécessaire.
Marie-Laure André.
Oui, alors Samira, moi j'ai envie aussi de vous rassurer parce que on peut y arriver après la périménopause à perdre du poids quand on est une femme. C'est vrai que c'est quand même très important de se sentir bien dans son corps au quotidien. Et quand ça passe par la perte de poids, il faut y aller. Mais il ne faut pas y aller n'importe comment. Alors, j'ai entendu que vous êtes quand même accompagnée sur ce chemin. Donc, ça, c'est important de l'être pour ne pas faire n'importe quoi. Après, il me semble que la notion de calories, elle n'est pas non plus essentielle. Je pense que compter les calories, c'est entretenir une relation un petit peu conflictuelle avec son alimentation, à toujours compter, contrôler, etc. Et je pense que là, quand on est dans ce système là, on n'est pas dans l'écoute à proprement parler de son corps. On a besoin vraiment d'être au plus près de ses besoins, des besoins qui changent, qui évoluent quand même avec l'âge. Et le premier indicateur, c'est quand même d'écouter ses sensations corporelles, notamment les sensations de faim et de satiété. Alors le problème, c'est que parfois, on ne les reconnaît plus, ces sensations, parce qu'à force de faire des régimes, on n'écoute plus du tout notre corps. Donc la plupart des personnes qui viennent me voir, que je reçois, me disent « mais je ne sais plus ce que c'est, la faim, la satiété, quand est-ce que je dois arrêter de manger ?» Donc c'est vrai que ça demande quand même un réapprentissage de l'écoute de soi, voilà, d'être davantage, quand on mange, quand on prend son repas, de savourer davantage, d'être davantage à l'écoute du goût, de la texture, etc., pour retrouver dans un premier temps ces sensations de satiété et manger les bonnes quantités qui vous convient.
Et je cite une étude de 2019, une étude suédoise que vous citez dans votre livre, Marie-Laure André, une étude suédoise dans la revue Nature Medicine, une prise de poids avec l'âge qui s'explique notamment par une modification du taux de renouvellement des graisses dans le tissu adipeux, un taux de renouvellement qui diminue et qui a une conséquence donc sur le stockage des graisses de réserve et donc sur la prise de poids. Merci beaucoup Samira de nous avoir appelé et nous accueillons Claire. Bonjour Claire, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci pour cette émission que d'ailleurs j'ai entendue dans ma voiture après une séance de sport, en revenant d'une séance de sport.
Ah, vous revenez du sport. Alors vous sentez-vous concernée par ce sujet de la difficulté à perdre du poids après un certain âge?
Oui, complètement. Alors moi, j'ai 58 ans. Mm-hmm. Depuis de nombreuses années, j'ai fait des régimes pour perdre du poids. Alors j'ai perdu, et puis j'ai repris, et puis j'ai perdu. Et en fait, il y a à peu près 2 ans, alors j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai eu une prise en charge psychologique, et en fait, la psychologue m'a dit, mais en fait, si vous avez une envie de manger, ben allez-y, cédez-y, et c'est plus... Enfin, voilà. Et ça m'a un peu sauvé la mise parce que je me suis concentrée en fait sur mes sensations alimentaires. J'ai arrêté de compter ce que je mangeais. Si j'avais envie de me faire plaisir, je me faisais plaisir, mais du coup en choisissant ce que j'allais manger. Voilà. Et en fait, bah, avec ce principe, j'ai commencé déjà par ne plus prendre de poids, ce qui était déjà pas mal, parce que j'étais quand même arrivée à 102 kilos. Et puis en fait, j'ai fait un bilan aussi au niveau santé, parce que je suis suivie aussi par un médecin, donc j'avais pas de problème de comorbidité. Et puis en fait après, bah, j'ai accepté de prendre un traitement à Mounjaro, et qui m'aide en fait à réguler mes envies alimentaires, mais aussi ça m'a permis aussi de reprendre du sport. Hein. Parce qu'en fait, mon objectif, hein, c'était pas forcément en termes de poids, mais c'était en termes de nouveau de retrouver mon corps comme j'avais envie, et surtout de pouvoir remonter à cheval. Voilà, ça c'était mon objectif qui était très important pour moi.
Merci pour votre message, votre témoignage très éclairant ce matin. On va revenir sur cette histoire de l'activité physique. Est-ce qu'elle permet de réguler le poids ou d'en perdre tout simplement? Mais d'abord sur l'aspect psychologique, Nicolas Da Silva, vous buvez du petit lait à ces propos?
Ah bah moi j'ai envie de dire un très grand merci à la psychologue de cette personne, parce que effectivement répondre à ses envies permet de se réguler. C'était ce dont je parlais tout à l'heure rapidement autour de la restriction cognitive. La restriction cognitive amène in fine dans tous les cas des surconsommations. Hein. Lutter contre ses envies plutôt que d'essayer d'y répondre, voire d'essayer de les comprendre, ça n'amène jamais rien de bon que de surconsommation et de craquage. Donc déjà pouvoir dire oui à ses envies, ça permet de se reconnecter à soi, à ce dont on a besoin. Parce qu'une envie, qu'est-ce que c'est? In fine, c'est l'expression d'un besoin. Alors parfois, on a des difficultés à correctement répondre à ses besoins, mais très souvent, une reconnexion à soi, ça permet d'éviter toute forme de surconsommation et puis de carence qui permet de se re-réguler, de retourner à ce qu'on appelle son homéostasie, son équilibre. Et c'est très souvent ce qu'on observe chez les patients. Hein, une fois qu'on retrouve déjà une reconnexion à soi, à ses sensations corporelles, à ses besoins, à ses envies, à reprendre du plaisir avec la nourriture, déjà, la première chose qu'on observe très souvent, c'est le poids qui se stabilise. Déjà, voire parfois, on en perd. C'est pas un objectif premier. Hein, ça peut pas être un objectif premier, mais parfois c'est même un effet secondaire. On peut même réobserver qu'en fait le poids d'équilibre de la personne était en dessous et donc en fait ça lui fait perdre du poids. Mais déjà très souvent ce qu'on observe c'est une régulation de ce poids.
Et puis nous avons tous des images d'aliments qui font ou ne font pas grossir, des aliments que l'on s'interdit pour ne pas prendre de poids, les frites, le burger, le millefeuille, le croissant, la mayonnaise, ça fait grossir, on se dit ça, et il faut se l'interdire pour ne pas grossir. En revanche, un poisson vapeur avec des haricots verts et une pomme, ça ne fait pas grossir, c'est sain.
Et tomates cerises.
C'est pas interdit, ça va m'aider à perdre du poids. Pourquoi ce type de pensée binaire, interdit, pas interdit, et pourquoi est-ce délétère à moyen et long terme, Nicolas Da Silva?
Alors, pourquoi déjà est-ce que ce genre de pensée dichotomique existe? Parce qu'on nous les a apprises, déjà, tout simplement. Je veux dire, ça fait quand même à peu près 50 ans de diète culture qu'on nous apprend ce genre de choses. Et puis, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui est en souffrance dans son insatisfaction corporelle. Donc, quelqu'un qui est insatisfait de son corps et qui souffre de ça. Qu'est-ce que cette personne veut? Cette personne veut, elle veut pouvoir se retrouver bien, être heureuse. Et quand on est en souffrance, généralement, on a tendance à la dichotomie. Donc, on va pouvoir prendre des conseils qui peuvent être déjà de base un peu dichotomiques et généralement, on va les rigidifier encore plus. Sauf que ça amène au cercle vicieux de la restriction cognitive, qui est donc une phase d'inhibition. Donc on perd du poids. Généralement, on perd du poids parce qu'on suit bien tout ce qu'on est censé faire. Sauf que tous les besoins, toutes les frustrations, ça augmente. Et à un moment, boum, ça explose. Et là, c'est l'effet yo. C'est le deuxième yo du yo-yo. C'est la reprise de poids. On retourne au poids initial, voire au-dessus. Et c'est la dégringolade des régimes à cascade, en répétition, qu'on connaît bien.
Merci Claire de nous avoir appelé. Alors Claire nous disait qu'elle faisait de l'activité physique régulièrement. Est-ce que c'est efficace pour perdre du poids? Qu'est-ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, professeur Boris Ancel?
Alors, l'activité physique est extrêmement efficace pour aller bien, pour aller mieux pour faire du muscle. Et là, on a parlé du gras depuis le début de cette émission. Maintenant, moi, je vais vous faire une révélation, si vous ne le savez pas encore. C'est que ce qui nous fait du bien, ce qui protège notre santé, c'est le muscle. Donc, il faut faire du muscle, il faut maintenir son muscle. Et si déjà, on se dit, voilà, je ne cherche pas à faire la guerre au gras, forcément, en tout cas, ce n'est pas mon premier objectif quand je me lève le matin. Mais mon objectif, et je pense que Nicolas sera d'accord avec moi, c'est de faire du muscle pour aller bien. Eh bien, je pense que ça nous fera beaucoup de bien, même déjà psychiquement. Est-ce que l'activité physique fait maigrir ? Non, sauf si on en fait plus de 2 à 3 heures par jour. Les personnes qui perdent du poids en faisant du sport, ce sont les coureurs du Tour de France. En revanche, si vous pratiquez une demi-heure...
Ou les marathoniens
qui s'entraînent effectivement tous les jours. En revanche, le fait de faire de l'activité physique même tous les jours pendant 30 minutes ou 45 minutes, en moyenne, ça fait perdre 2 à 3 kilos au total. 2 à 3 kilos au total, à peu près 1-2% ou 3% du poids grand maximum. Donc il ne faut pas compter dessus pour perdre du poids. En revanche, il faut compter dessus pour aller mieux psychiquement, pour diminuer toutes les douleurs, parce que même quand on est en situation d'obésité, moi je dis sans arrêt, il n'y a pas que le poids qui fait mal. Si vous faites du muscle, si vous vous entraînez, vous verrez, moi mes patients me le disent tous, au bout de 3 semaines, les douleurs dans les genoux, dans les chevilles, diminue, et puis c'est ce qui nous permet d'avoir moins de risques de développer des maladies comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc c'est extrêmement efficace, mais le critère de jugement, c'est pas la perte de poids.
Nicolas Da Silva ?
Je sais même pas si j'aurais quelque chose à rajouter, parce que je suis simplement d'accord. On a des études qui nous montrent que le sport a autant d'effets parfois que les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Niveau régulation émotionnelle, niveau régulation
parce
du
que
sommeil.
Nous produisons des hormones comme les endomorphines, quand nous faisons du sport au bout de 20, 30, 40 minutes.
C'est ça,
des
exactement.
Des endomorphines qui font du bien au moral.
C'est ça, exactement. Et en fait, avoir une activité physique dans sa vie, ça permet d'avoir une vie qui est de base plus équilibrée, plus régulée sur plein de plans de sa vie. Faire du sport, ça fait aller bien. C'est un conseil aussi que je donne beaucoup, même pour tout ce que l'on pourrait estimer être des douleurs de dos, de genoux. Et je rejoins Monsieur Boris Hansel là-dessus. Donc oui, faites du sport pour vous faire du bien. L'outil de mesure pour savoir est-ce que ça marche le sport, c'est est-ce que ça me fait du bien.
Et nous accueillons Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour Annie,
bienvenue.
D'abord super contente de vous retrouver.
Merci à vous.
Vraiment.
Et bonne année à vous.
Eh ben merci, vous aussi. Alors, ce que je viens d'entendre là, j'aime bien sur le sport. Moi, je suis pas une grande sportive, mais depuis que je fais de la marche nordique, effectivement, je sens des choses qui vont mieux. Et je trouve que c'est en contradiction avec ce qu'a dit l'intervenant précédent, à savoir que si, bien sûr, le sport fait maigrir, parce que si on perd, comme il disait, les 2-3 petits kilos, mais monsieur, vous ne le savez sans doute pas, ce sont les plus importants. Parce que quand on en a perdu 2 ou 3, le reste, c'est facile. Vous comprenez ? C'est dès qu'on perd même quelques centaines de grammes, on se dit « ça y est, je suis sur la bonne pente » et on continue à descendre. Voilà. Et sinon, ce qui m'a fait bondir tout à l'heure, en début d'émission, c'est la présentation. Pas de restrictions, mais si, bien sûr, pas de contraintes, mais si. Moi, je suis suivie par une diététicienne absolument adorable et performante, mais elle m'impose quand même des contraintes quand elle me dit « Dominique, vous avez droit au chocolat ?» Je suis très gourmande et j'adore cuisiner comme vous, Ali. Et elle me dit « Bah alors prenez un carré de chocolat à la fin du repas et ensuite allez vous laver les dents pour oublier le goût du chocolat. » Mais j'ai envie de dire « Tu rigoles, moi j'ai envie de revenir à la tablette. »
Bienvenue au club.
Mais donc voilà, ce sont des contraintes. Dormir plus, c'est vrai. Quand je réussis à dormir plus, c'est vrai, je reperds du poids. Mais c'est une contrainte. Manger la moitié de légumes à chaque repas, je le fais, j'ai une assez bonne alimentation. Mais c'est une sacrée contrainte. Le soir, on a le droit de manger. Ouais, d'accord. Poisson, ah oui, mais pas n'importe lequel. Pas du poisson gras. Fromage, ah. Pas ce fromage-là, de préférence. Non, parce que... Alors, voilà, pas compter les calories, tout ça, je suis d'accord.
Boris Hansel, envie de vous répondre.
Oui, merci pour votre témoignage. C'est extrêmement important parce que, en fait, il faut distinguer plusieurs situations. Parmi les personnes qui nous consultent, je vais en distinguer 3, peut-être Nicolas, on aura un quatrième, je ne sais pas. Premièrement, les personnes qui arrivent à s'astreindre à un régime restrictif à vie. Ces gens-là, nous, on ne les voit pas et j'ai envie de dire, faites-le. Voilà, si vous êtes en situation d'obésité et qu'avec un régime restrictif que votre médecin ou votre diététicien vous a proposé vous tenez toute la vie, faites-le. Moi, je connais dans mon entourage, mais pas chez mes patients, des personnes qui ont tenu toute leur vie. Mais attention, c'est pas 6 mois puis stabilisation. C'est je fais toute la vie. Et ce qui a été montré dans les études scientifiques, le profil, le portrait robot de la personne qui perd du poids, plus de 10% et qui le maintient, c'est très simple. Quelqu'un qui se surveille tous les jours, c'est quelqu'un qui fait 1 heure d'activité physique tous les jours, il n'y a pas de week-end, et quelqu'un qui, effectivement, est très strict, comme l'a dit notre auditrice, tous les jours, et il n'y a pas de week-end. Ça, ça marche. La question, c'est est-ce qu'on est en mesure de le suivre à vie ?
Est-ce que ça correspond à son profil ?
Absolument. Il ne faut pas se dire, je suis motivé parce que c'est le début de l'année. Il faut se dire, est-ce que je suis en mesure de le faire pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans ? Le deuxième profil, c'est les personnes comme notre auditrice, qui sont suivies et qui font des ajustements qui ne sont pas forcément très restrictifs, mais qui le sont quand même, et pareil, qui arrivent à tenir longtemps. Moi, la majorité des patients qui viennent me voir sont des gens qui ont suivi ce type de rééquilibrage alimentaire avec tous ces conseils classiques, et la sauce allégée, etc., etc. Le problème, c'est pareil, est-ce qu'on va tenir ça toute la vie ? Si c'est possible, je dis oui, faites-le. Et troisième situation, et c'est surtout à ces personnes que je m'adresse aujourd'hui, c'est les personnes qui ont déjà fait ça, qui savent que c'est difficile, qui ont envie de manger. On leur dit de manger, voilà, de couper l'assiette en 3 avec légumes verts, féculents, protéines, de prendre un fruit, éventuellement une poignée d'amandes à 16h, etc. De manger des tomates cerises plutôt que des canapés. Tous ces petits conseils qui sont vrais théoriquement, si on n'est pas en mesure de les tenir, qu'on l'a déjà fait pendant 6 mois, pendant 1 an, ça ne tiendra pas la fois suivante.
Nicolas Da Silva.
Parfaitement, parfaitement. Nous, en diététique comportementale, on aime parler d'un système up and down.
C'est-à-dire
Alors, ce système up and down, donc up, montée, down, descente, la partie up, c'est quand je fais tout bien comme je dois faire, ou alors quand le poids va dans le sens dans lequel je veux. Et là, on va recevoir un petit pic, un petit up d'une émotion qu'on pourrait qualifier, ça tarde un petit peu comme de la fierté, on va dire. Hein. Le premier kilo qui descend, j'ai bien pris les haricots verts à la cantine aujourd'hui, j'ai bien refusé les Ferrero Rocher qu'on m'a proposé et j'ai bu un verre d'eau quand j'avais faim à 17h. Et tout ça, ça va amener des petits ups, des petits ups, des petits ups, des petits ups.
Des petites montées.
Des petites montées, c'est ça. Des petites montées qui n'ont pas de rapport avec nos besoins primaires, avec nos régulations physiologiques, avec nos besoins, mais bien avec cette idée que je suis en train de faire ce qu'il faut que je fasse et c'est euphorisant. Sauf que tout ça, ça va amener à une accumulation de tension qui, pour beaucoup de personnes, pas tous, il y a différents profils, comme l'a très bien dit Monsieur Boris, mais pour beaucoup, cette accumulation de tensions sur divers besoins va amener un moment à une explosion. Et là, c'est ce qu'on va appeler la phase de down. La phase de down, c'est le moment...
De descente.
C'est ça, de descente. La descente, elle peut avoir lieu quand ? Elle peut avoir lieu quand j'ai fait, je pense, beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup lutté contre moi-même. Hein. Vous entendez déjà ce registre hein, qui est pas bon signe, généralement. J'ai beaucoup lutté contre moi-même et puis j'ai perdu que 500 grammes cette semaine. J'ai pas perdu le kilo que je voulais. Ça peut arriver aussi quand je me suis resservi des pâtes au final. Ouais, j'ai pris le dessert sucré au lieu de la pomme. Et en fait, ces down, à un moment, ils vont amener une décompensation où on va faire tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire dans l'autre sens. Et là, on va accumuler des émotions type culpabilité, honte, dépression de l'estime de soi, etc., etc. Et une fois qu'on est bien ancré dans le down, qu'est-ce qu'on veut ? C'est remettre un up pour consoler ce down. Et on sait que ce système-là, il peut avoir tendance à être vicieux pour beaucoup de personnes parce qu'on nous montre qu'un système up and down, c'est en moyenne un up pour 4 à 5 down. Ça veut dire qu'au bout de 25 up, je vous laisse faire la multiplication qui attend le patient derrière. Et c'est pour ça qu'on préfère des approches plus flexible, plus intégrative, parce que pour beaucoup de gens, ça ne va pas pouvoir tenir.
Et surtout, on se dit que c'est sa faute. Et c'est ça le risque.
Marie-Laure André.
Oui, alors en fait, c'est vrai que tout ça, c'est une histoire de curseur. On est tous différents, avec des objectifs différents, avec notre corps qui fonctionne à sa manière, avec nos antécédents, avec notre culture, avec nos habitudes. Et l'idée, c'est toujours de bien placer le curseur pour évoluer vers ses objectifs, que ce soit des objectifs santé ou juste silhouette, se sentir bien dans son corps, mais aussi éviter d'avoir trop de frustration. On peut s'imposer plein de choses. Il y a des gens qui sont capables de s'imposer des restrictions entre guillemets au quotidien et puis de se lâcher un petit peu plus le week-end et ça leur convient. Et d'autres qui sont capables de tenir encore plus longtemps et d'autres personnes qui n'y arrivent pas, tout simplement, qui, dès qu'ils ont cette sensation de frustration, de restriction, craquent à la première occasion. Donc l'idée, c'est quand même aussi de comprendre comment on fonctionne pour avancer correctement. Et puis, se dire que, oui, peut-être que l'idéal, c'est de manger des légumes à chaque repas, midi et soir, pour couvrir nos besoins nutritionnels en vitamines, composés antioxydants, etc. Mais si moi, le plus simple et le mieux que je puisse faire, c'est de consommer des légumes au moins une fois par jour, plutôt que zéro fois, c'est déjà bien. Et c'est ça, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je suis capable de faire et de faire en sorte que mon alimentation, je sois OK avec ça et ce soit fluide, ce soit plus un combat au quotidien.
Merci beaucoup Dominique de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Dans un instant, on s'intéresse aux nouveaux médicaments injectables contre l'obésité et le surpoids comme le Wegovy, le Mounjaro ou le Saxenra. Des médicaments tentants quand on ne parvient pas à perdre du poids en dépit de ses efforts. On se retrouve juste après avoir écouté Feu Chatterton. Le labyrinthe.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisin de Corinthe, épêche rubis. Marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe. Sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. Tu te promène seule dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte. On tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde.
Feu Chatterton interprétait le labyrinthe.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et dans Grand bien vous fasse ce matin, comment perdre du poids après 40, 50 ans et plus, avec l'endocrinologue Boris Ancel et avec les diététiciens nutritionnistes Nicolas Da Silva et Marie-Laure André. Et nous accueillons Alain. Bonjour Alain, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Quelle est votre question, votre témoignage?
Eh bien, je voulais déjà, comme beaucoup l'ont fait, féliciter France Inter d'avoir rétabli l'émission à
Merci.
Une heure, ce qui est beaucoup plus intéressant.
Merci
Et
beaucoup.
Et puis, ensuite, mon témoignage, c'est bon, j'ai 75 ans. Ma question, on a beaucoup parlé de graisse, un tout petit peu du Tour de France, mais les coureurs du Tour de France, ils perdent de la graisse, mais pas de muscle. En ce qui me concerne, c'est surtout de la perte de muscle. Donc, mon poids, en fait, ne varie pas, mais c'est la perte de muscle qui est... Alors, je fais de la marche. fais de l'exercice, mais j'ai un peu d'arthrose et les exercices physiques me sont pénibles. Voilà, donc quand on parle de poids, on parle de graisse bien évidemment, mais je pense qu'il faut aussi parler de muscles.
De la sarcopénie notamment, et votre témoignage va dans le sens de celui de Mélissa Dauriac qui nous écrit « Pourrait-on souligner qu'à partir d'un certain âge, ce n'est plus le moment de perdre du poids ? Ma grand-mère a essayé toute sa vie de perdre du poids, à 90 ans, elle est très contente d'en perdre, mais elle se dénutrit, elle a des pathologies chroniques qui nécessitent de ne pas perdre de poids et surtout de muscles, professeur Boris Ancel.
Absolument, tout à l'heure on a insisté sur le muscle, peut-être vous ne saviez pas encore que Grand Bien Vous Fasse avait commencé, mais vous avez tout à fait raison et je ne peux que confirmer ce que vous dites, le muscle et encore le muscle, et si vous n'y arrivez pas, l'aide d'un enseignant en activité physique adaptée, ce sont des professionnels, ils sont là justement pour nous aider à maintenir et à renforcer son muscle et à le rendre encore plus solide et plus fonctionnel.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Alain. Nicolas Da Silva, vous vouliez peut-être apporter quelques précisions ?
Pour moi, M. Boris Ancel a tout dit, effectivement, l'activité physique et la lutte contre la sarcopénie, dans tous les cas, c'est un indispensable, surtout à partir d'un certain âge, vu qu'on sait que la masse musculaire ne va faire que décroître et qu'après on va rentrer dans le cercle vicieux de la dénutrition. Pouvoir maintenir le plus longtemps possible une certaine masse musculaire, que ce soit autant pour la santé psychique que la santé physique, évidemment, on la recommande.
Marie-Laure André, en quelques mots.
Oui, alors c'est vrai que la perte de masse musculaire, elle se fait pas du jour au lendemain, donc je pense que c'est important d'anticiper. Et au niveau activité physique, on a dit que ça facilitait pas forcément, pas toujours en tout cas la perte de poids, mais les exercices de renforcement musculaire, ça aide à préserver sa masse musculaire, donc c'est important de le souligner, et donc de pratiquer bien après 50 ans des activités de cet ordre-là, mais aussi de veiller à couvrir ses besoins en protéines au quotidien. On entend souvent parler qu'il faut 25 grammes de protéines par repas, mais en fait les besoins en protéines, c'est quelque chose de très individuel, donc il faut vraiment peut-être consulter quelqu'un un professionnel pour vraiment estimer ses besoins en protéines et ajuster ses besoins et contrôler en tout cas ses apports en protéines au quotidien.
Alors de nombreux auditeurs et auditrices nous disent manger des gourmandises sans avoir faim. Quelle question faut-il se poser quand j'ai plus faim à la fin d'un repas mais que j'ai envie d'un fondant au chocolat ou d'une glace, donc au moment du dessert ou parfois une heure ou deux heures après, Nicolas Da Silva?
Alors, la toute première question qui peut être intéressante à se poser, c'est est-ce que ça vaut bien le coup de surréfléchir ce truc-là ? Parce que des fois, ça s'appelle simplement la vie, manger quelque chose de gourmand, c'est simplement agréable. En revanche, on se rend compte que c'est chronique, que c'est très fréquent que ça arrive, ce truc-là. Je ne comprends pas pourquoi, très fréquemment, j'ai la sensation de ne plus avoir faim et puis de dépasser mes signaux en mangeant quelque chose de sucré et puis essayer de me dire, arrête, ne suffit pas, au contraire, ça entraîne une frustration. Alors là, on peut aller se poser quelques questions. Déjà, est-ce que mon repas a été composé de façon suffisamment nourrissante, par exemple, quelque chose qui peut faire qu'on a un coup de faim quelques heures après, c'est par exemple que j'ai pas eu assez de féculents ou j'ai pas eu assez de protéines dans mon repas. J'ai fait trop juste une petite viande ou un petit poisson et un légume ou alors il y avait pas assez de féculents, il y avait pas assez de protéines. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment ça va, tout simplement. Comment ça va, hein. Moi, j'aime toujours proposer ça à mes patients. La première question, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé. Deuxième question, ça fait combien de temps que j'ai pas pris simplement de plaisir avec cet aliment, parce que si ça fait longtemps que j'ai pas pris de plaisir avec cet aliment, il faut simplement le manger, tout simplement. Puis après, mes pensées, vers quoi elles sont occupées, est-ce que je vis une journée particulièrement stressante aujourd'hui au travail, est-ce que j'ai une accumulation de fatigue à laquelle je ne peux me permettre de répondre, émotionnellement, là si je devais définir ma santé émotionnelle comme une météo, ou en tout cas mon état émotionnel comme une météo, quelle tête aurait le ciel, et puis dans le corps, comment ça se traduit, est-ce qu'on a une boule dans la gorge, est-ce que c'est dans la poitrine, est-ce que c'est... Et là on pourra déjà avoir des petits indices sur quel serait mon besoin et comment je vais y répondre. Et puis si la réponse c'est, en vrai là, vraiment la seule chose qu'il me faut c'est un moelleux, moelleux. Mais si par hasard il y a plein d'autres choses qui pourraient me faire du bien, comme mais enfin mettre en place cette petite marche après le travail, après le repas du midi avant de recommencer le travail de l'après-midi, faire une petite quart d'heure de marche ou appeler quelqu'un ou écrire ou partager ce qu'on ressent, allons-y aussi.
Et se dire que ce moelleux au chocolat, on va le déguster, le mastiquer longuement, prendre plaisir à le manger pour ne pas culpabiliser d'avoir cédé à la tentation. Alors juste avant d'écouter Nicole, j'aimerais que Boris Ancel, vous nous disiez un mot sur ces nouveaux médicaments injectables contre l'obésité, le Wegovy, le Mounjaro, le Saxenda, des médicaments qui sont assez tentants quand on ne parvient pas à perdre du poids en dépit de ses efforts, des médicaments que tous les médecins généralistes peuvent désormais prescrire. Ce sont des médicaments par agoniste du GLP-1. Alors, en quelques mots, comment fonctionnent ces stylos injectables? Pourquoi font-ils perdre du poids?
Alors, très simple, ça réduit l'appétit par un effet au niveau du cerveau et un effet au niveau de l'estomac. Ce qui est intéressant, c'est le témoignage qu'on a eu tout à l'heure qui a montré le bon usage de ce médicament. Ces médicaments ne sont pas une alternative au changement de mode de vie. Ça, c'est une catastrophe. Et on commence à voir arriver plein de gens qui ont pris le médicament et ça ne se passe pas bien, ou ils reprennent du poids, ils veulent arrêter. Bref, c'est une catastrophe. Ce qui a été montré tout à l'heure, c'est que non. Un, on modifie ses habitudes positivement. Ça ne fait pas forcément perdre beaucoup de poids, mais c'est un préalable, un précédent indispensable. Mmh. Et deux, on ajoute ce qui est souvent nécessaire, une réduction de l'appétit. Et ça, c'est le médicament, ou dans certains cas, la chirurgie, ou dans certains cas, ce qu'on appelle la picature gastrique. Donc, la bonne démarche, c'est je modifie mes habitudes. Ce n'est pas quand je suis en échec que je joue le médicament. C'est au contraire, quand j'ai réussi à modifier un peu, j'ajoute le médicament. Je précise que je n'ai pas lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. C'est important de le préciser quand on parle de médicaments.
Et on termine avec Nicole. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour.
Quel est votre témoignage?
D'avoir pris. Alors moi, c'est un témoignage tout simple. C'est en fait, quand j'avais 20 ans, j'étais une fille qui était considérée comme ronde parce que je faisais du 40-42. Mmh. Et maintenant, j'ai 57 ans et je rentre toujours dans mes jeans de fille de 20 ans. Et qu'en fin de compte, toute cette injonction qu'on a aussi, beaucoup pour les femmes en fait, hein, de cette image qu'on doit coller quand on a 20 ans, on doit être mince. Et ben, je trouve qu'arrive un certain âge, enfin mon âge, 57 ans, se débarrasser de tout ce poids, de tout ce... Exactement, on parle de poids, vous voyez, de toute cette image et de s'accepter et de chérir son corps en fait, parce que notre corps c'est notre maison. C'est ce qui nous permet de voyager dans la vie, en fait, de vieillir et d'en prendre soin, de le respecter et pas à coup de régime. Alors peut-être, effectivement, il y a des gens qui ont des pathologies et ça, je l'entends, mais d'accepter de son corps, de le chérir et de s'en occuper et de ne pas le martyriser, ben, ça aide énormément à stabiliser le poids. Moi, en fait, je stabilise mon poids. Je ne serai jamais mince, je ne serai jamais... mais je ne suis pas grosse non plus et je suis en bonne santé en fait et je voulais témoigner sur ça.
Une belle conclusion, Nicole.
Très belle. Son corps, voilà.
Très belle conclusion, Nicolas da Silva.
Je ne peux que plus soyez, effectivement, je ne peux que plus soyez. Généralement, en plus, ces bonnes habitudes dont parlait Monsieur Boris Hansel arrivent à se mettre en place à partir du moment où on commence à vouloir chérir son corps. C'est pour ça que c'est très important le travail sur l'insatisfaction corporelle.
Merci, Nicole, de nous avoir appelé. Merci, Nicolas da Silva. La fin des injonctions, c'est publié chez First. Merci, Marie-Laure André. Mincir et rester mince après 45 ans, c'est publié chez Le Duc. Merci, professeur Boris Hansel. Votre chaîne, c'est PUMS pour une meilleure santé. C'est disponible sur YouTube. Et ce soir, comment gérer sa consommation d'alcool à 18h30
ça
sur PUMS.
En direct, dans les PUMS en direct avec la PHP, on sera avec le professeur Amine Benyamina. On parlera d'alcool et comment la gérer au quotidien dès ce début
et
d'année.
Et Boris, on se retrouvera tout au long de la saison.
Avec plaisir, Alice.
Grand bien vous fasse à podcaster et à partager. Demain, comment réussir sa recherche généalogique, comment bien commencer et quels sont les pièges à éviter. N'hésitez pas à nous appeler nombreux dès 10h demain. Bonjour Nagui.
Bonjour Ali.
Nagui,
bonne année.
Et Laïla Kadour Boudadi et tout le reste.
Et tout le reste. Daniel,
c'est tout le reste.
Je vais faire une ordonnance demain matin.
Ça fait tellement plaisir de vous retrouver, mon cher Nagui.
On est ravis. Et puis surtout, on a compris comment faire. Parce que demain, après-demain, vous pourriez faire comment rester maigre après 64 ans.
C'est parce que là, ça vous concerne, ça.
Après 45,
moi, je rêve d'avoir votre ligne, Nagui.
C'est pour un ami.
Vous êtes un modèle pour moi.
De ma ligne.
Oui, votre ligne.
La ligne 14. Aujourd'hui.
Tu mets de la ligne 14, bien sûr.
Exactement, automatique. Valérie Carcentier et Denis Podalydès sont nos invités.
Et bonne année à lui.
Et bonne année à tous.
Bisous.